On en parle.
Alors comme ça, on a des cheveux blancs ou alors des cheveux gris, on a envie de changer de couleur, on a envie d'ajouter des reflets peut-être. Bien, sachez que la coloration des cheveux est un marché en pleine croissance depuis une dizaine d'années. En Europe, 60% des femmes teignent leurs cheveux. Les hommes aussi s'y mettent gentiment. Il n'était qu'un petit 2% il y a 7 ans contre près de 10% aujourd'hui. Johanna Comment, je vous avais décidé d'attaquer ce sujet à la racine, un petit peu facile, mais enfin tout de même. D'autant que les colorations de synthèse ont fait l'objet de polémique en ce qui concerne leur impact sur la santé des consommateurs. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux déjà.
Et pour commencer, hein, on ne va pas couper les cheveux en quatre. Celle-ci aussi, elle est facile, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais se pencher tout particulièrement sur ce qu'il vous reste, Ambroise. Est-ce que vous savez pourquoi votre châtain naturel passe inexorablement du poivre et sel au blanc comme neige?
Eh bien, tout à fait comme vous, ma chère, je vieillis, figurez-vous.
Exact. Et c'est bien pour masquer cet outrage du temps que nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux donc à avoir recours à la teinture chimique, la seule qui masque vraiment les cheveux dépigmentés. Définition avec le docteur André Tsourne, dermatologue.
Un cheveu blanc, c'est un cheveu qui n'a plus de pigment. Et le pigment du cheveu, c'est comme le pigment du bronzage, c'est la mélanine. Et à partir d'un certain âge, les cellules mélanocytaires qui sont à la base de la racine des cheveux sont épuisées et ne produisent plus ce pigment. Il y a des blanchiments plus ou moins précoce, déjà vers l'âge de 20 ans. En général, on estime que le blanchiment des cheveux apparaît vers l'âge de 34 ans.
34 ans en moyenne pour les Européens et 10 de plus pour les Asiatiques et les Noirs. Mais plus généralement, l'arrivée des premiers cheveux gris dépend du facteur génétique, un héritage familial qu'il vaut mieux d'ailleurs ne pas attaquer de manière radicale, c'est-à-dire en arrachant ce nouvel intrus.
J'ai même lu que certains avaient émis l'hypothèse que même jusqu'à 7 cheveux blancs repoussés à la place d'un cheveu blanc arraché, mais ça n'est pas le cas. Par contre, on déconseille en général d'arracher les cheveux blancs parce que ce qui va se passer, c'est que le cheveu qui repousse risque d'être un peu plus dru et risque, si vous voulez, dans la chevelure, d'être plus apparent parce qu'il va pousser de façon plus forte. Donc, il sera paradoxalement plus visible après.
Donc, on n'arrache pas les cheveux blancs, on l'a compris. Reste deux solutions. Soit on assume ce signe du temps, ou alors on passe éventuellement à la teinture.
Une teinture dite permanente ou d'oxydation, c'est-à-dire qui ne va pas s'estomper au fur et à mesure des shampoings, car la couleur n'est pas déposée en surface, sur les cheveux, mais à l'intérieur. La technique, c'est donc d'ouvrir l'écaille du cheveu avec l'ammoniac pour que les pigments rentrent dans la fibre capillaire et remplace la mélanine qui fait défaut. Après un temps de pause, un shampoing revitalisant referme les écailles du cheveu et scelle donc la couleur à l'intérieur. Il faudra pourtant renouveler l'exercice à la repousse des cheveux pour couvrir les racines et en moyenne, les adeptes de la coloration la pratiquent 8 fois par an.
Mais c'est bien ce que vous me dites parce que moi je ne suis pas tout à fait au courant de la pratique en la matière pour tout dire puisque je n'ai plus un poil sur le caillou donc je ne maîtrise pas vraiment le sujet. Mais concrètement, Johanna, ça se passe comment? Une teinture.
Un exemple valant mieux qu'un long discours, je vous propose Ambroise de passer entre les mains d'une professionnelle. Exercice pratique avec Joséphine, coiffeuse. Le procédé est le même qu'à la maison, avec le risque en moins de transformer sa salle de bain en atelier de peintre.
Allons-y, préparons ensemble. Alors, donc toujours pareil, on choisit la couleur avec la cliente. Ensuite de ça, moi je vais préparer. Donc je prends les tubes de couleur. Voilà, j'écrase ma couleur dans mon bol.
La couleur, elle ne correspond pas dans le bol à la couleur qui va apparaître sur les cheveux, hein?
Non, pas du tout. Parce qu'après, justement, elle va s'oxyder, elle va reprendre sa couleur normale. Mais au début, effectivement, pas.
Au début, ça ressemble à rien, pour être clair.
Du tout. De temps en temps, ça fait même presque peur. Ou ça peut te virer au vert ou au rose. Donc voilà. Voilà, ensuite de ça, je prends mon oxydant. Si on veut un éclaircissement, on prendra un oxydant qui est un peu plus fort. Et si on veut un ton sur ton, on prendra un oxydant qui est très faible.
Et vous n'utilisez pas de gants au moment du mélange?
Pas pour le mélange, parce qu'on ne touche pas la couleur. Voilà. Voilà. Alors ensuite de ça, moi je prends mes gants. Et voilà, et après, je commence à appliquer ma couleur sur la cliente qui a les cheveux secs. Donc là, après, on applique en forme de croix. Donc, on fait une croix sur le cuir chevelu. Et à ce moment-là, on applique racine par racine. Voilà. Et après, on laisse un temps de pause. Et après, soit nous allons allonger la couleur sur la longueur. Soit, s'il n'y a pas besoin, on va rincer au shampoing après un temps de pose de 30 minutes. Il ne faut pas que je laisse poser la couleur très longtemps, parce qu'autrement elle s'oxyde et le résultat ne sera plus le même. Donc, moi j'y vais. Je vais commencer mon travail.
Bon, ben on va laisser Joséphine avec sa cliente, mais Johanna, on le disait tout à l'heure, en moyenne, enfin c'est les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, plus de la moitié des femmes font des couleurs, c'est assez énorme ça.
60% des femmes hein, et donc 10% des hommes, et selon une étude danoise citée par le comité scientifique des produits de consommation de l'Union européenne, l'âge moyen de la première teinture n'est que de 16 ans.
Ouais. Alors là on parle d'ammoniac, on l'a dit, hein, l'ammoniac qui ouvre les écailles du cheveu, etc. On parle d'oxydant aussi. On s'y expose de plus en plus jeune, ça c'est des chiffres que vous sortez à l'instant. Mais ces teintures capillaires, est-ce qu'elles sont sans conséquence pour la santé des consommateurs? C'est bien là l'objet de ce dossier.
Non, je ne sais pas hein, si vous vous êtes déjà penché sur ces boîtes de couleurs dans les rayons cosmétiques des magasins, mais toutes aujourd'hui mettent en garde contre les risques d'allergie. Donc non, ce geste qui existe, petite parenthèse, hein, depuis plus de 100 ans, n'est pas anodin. Et dans les salons de coiffure, eh bien on le sait.
Mais effectivement, de temps en temps, ça arrive que la cliente ait sensible à certaines couleurs ou à l'oxydant. C'est pour ça qu'en général, une cliente qui n'a jamais fait de couleur permanente, on lui fait un test. Donc soit c'est au coude, on lui applique une petite quantité de couleur, soit alors derrière l'oreille. On laisse 24 heures minimum et ensuite de ça, on regarde s'il y a une allergie ou pas.
Quel type de réaction est-ce qui peut apparaître sur le bras ou derrière l'oreille? En fonction de quelle réaction est-ce que vous dites à la cliente non, pas de couleur?
Alors ça dépend, on peut, soit la peau peut gonfler, soit elle peut croûter, soit elle peut cloquer. Donc à ce moment-là, on ne fait pas, hors de question.
Et si c'est juste une petite tache rouge?
Ben, c'est mieux pas. Après, bon, tout dépend, si la cliente veut absolument, on fait, mais c'est déconseillé.
Et vous-même, là, je m'excuse, hein, je regarde l'état de vos mains. Franchement, c'est un peu sec et puis on voit vous avez des sortes de crevasses. C'est les shampoings ou c'est les couleurs?
Alors, c'est plutôt la décoloration. Et après, les marques de taches, tout ça, c'est effectivement la couleur. Parce qu'évidemment, quand on rince, voilà, on met les gants avant de rincer, mais ensuite de ça, après, on enlève. Donc, il y a toujours un petit peu de résidu de couleur qui reste. Donc, pour ça, quand préférable d'enlever les gants pour bien frotter le cuir chevelu. Et voilà, nous, après, voilà, les résultats dans nos mains.
En revanche, vous riez, vous souriez, vous n'avez jamais été confronté à des réactions d'allergie, vous-même, tout va bien.
Oui, oui, très bien, oui, pas de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que bon, les allergies, ça peut arriver du jour au lendemain aussi, comme ça. Mais moi, personnellement, rien du tout. Ni au cuir chevelu, parce que moi-même, je fais des couleurs permanentes, ni mes mains, rien du tout.
Bon, rien du tout pour cette coiffeuse, mais en termes de chiffres, maintenant, combien de personnes rencontrent des problèmes après une teinture de cheveux?
Je vais être sincère, hein, je n'ai pas trouvé de statistiques fiables, mais ce qui est certain en revanche, c'est que l'Europe s'interroge. Depuis 2003, la Commission européenne met en place une stratégie qui vise à établir une liste positive des substances pour teinture capillaire.
Et on en est où dans cette démarche alors?
Alors en juillet 2006, 22 substances ont été interdites, et pour ce qui est alors du domaine strict des allergies, le comité scientifique des produits de consommation, un organisme donc indépendant, a testé 46 substances présentes dans les colorations capillaires commercialisées dans l'Union européenne. Verdict, 10 sont extrêmement sensibilisantes, 13 fortement sensibilisantes et 4 modérément. Seuls 19 composants se sont avérés totalement inoffensifs.
Alors ce sont les extrêmement, les fortement et modérément qui ont été interdits, j'imagine.
Eh bien non. Et pour une raison bien simple, en l'absence de certaines substances, pas de coloration possible du tout. Bruxelles tente donc de déterminer, entre autres, hein, je cite, « la quantité de substances allergènes pouvant être utilisées en toute sécurité dans les produits sans causer d'allergie cutanée aux consommateurs ». Alors pour l'heure, en tout cas, du côté de l'industrie, on se veut rassurant. Pour Bernard Cloetta, le directeur de l'Association Suisse des Cosmétiques, les teintures capillaires sont sûres et il n'y a pas de raison d'interdire les substances allergènes.
Bon, au fond, ces produits qui sont sur le marché ne posent pas de danger pour la santé. En ce qui concerne les allergènes, bon, on devra aussi se demander s'il faut interdire les fraises ou les noix, parce que là aussi, il y a des gens qui ont des allergies. Et nos produits sont bien déclarés, alors chaque consommateur peut choisir s'il veut utiliser ce produit à cause d'une éventuelle allergie. Ce sont des produits sûrs, bien sûr, il faut les utiliser selon instruction.
Alors c'est vrai, hein, sur chaque boîte vendue en Suisse, la mise en garde est claire contre les risques d'allergie. Et en parlant d'allergènes, je ne vous en citerai qu'un, il est utilisé depuis le 19e siècle, son nom PPD est toute ressemblance hein, avec un personnage existant ou ayant existé et fortuite. Je suis contente, je vous ai fait rire. Ouais. Les explications du dermatologue André Zurn.
Dans les teintures capillaires, le produit allergisant principal s'appelle la paraphénylène diamine et c'est un colorant qui est présent dans les teintures capillaires, aussi bien les brunes, les noires, que des couleurs plus fantaisies comme les rouges. Et c'est un produit qui est connu pour être assez allergisant et qui, lorsqu'il fait une allergie, malheureusement pour la personne, signifie que cette personne ne pourra plus se teindre les cheveux avec ce produit.
Cette substance, on l'appelle aussi la PPD, c'est plus simple, en tout cas pour moi, de la prononcer ainsi. Elle a été interdite dans l'ensemble des cosmétiques, pourtant elle est toujours présente, mais à 6%, pas plus, dans les teintures capillaires. Pourquoi ?
La paraphénylène diamine est permise dans les teintures capillaires parce que, dans le cas des teintures capillaires, c'est un produit qu'on applique qu'un instant relativement bref sur la peau, ce qui minimise le risque de développer une allergie. Si la paraphénylène diamine était présente dans des crèmes ou dans des produits pigmentés, comme par exemple dans des mascaras ou dans des crayons de kohl, le fait que le pigment soit en contact avec la peau des heures et des jours, ça signifie que le risque de développer ce qu'on appelle une sensibilisation, c'est-à-dire une allergie de contact, ce risque à ce moment-là serait beaucoup plus grand. Donc ce produit n'existe pas dans les cosmétiques où l'application est en relation permanente avec la peau.
Est-ce que c'est pour cette raison que finalement il y a plus de coiffeurs qui sont allergiques aux teintures capillaires que de consommateurs ou de consommatrices ?
Oui, l'allergie à la paraphénylène diamine est surtout fréquente dans les professions de la coiffure parce que le produit est en contact malheureusement avec les mains, dans l'humidité et pendant de longues minutes, ce qui produit des conditions idéales pour développer une allergie, d'autant plus que souvent les mains des personnes qui travaillent dans la coiffure sont déjà très desséchées, très irritées, elles sont donc beaucoup plus susceptibles d'être le terrain de développement d'une allergie à beaucoup beaucoup de substances et entre autres à la paraphénylène diamine.
Et comme pour les coiffeurs hein, qui ont la peau des mains très abîmées, nous sommes nombreux, après une coloration, à avoir le crâne qui gratouille ou qui brûle un peu. Alors pour autant, on n'est pas forcément allergique à la teinture capillaire, on retourne chez le docteur.
Dans la population générale, l'affection du cuir chevelu très répandue, qui se manifeste aussi par des légères démangeaisons, des pellicules, une gêne, c'est ce qu'on appelle un eczéma séboréique. Pratiquement une personne sur deux ou une personne sur trois va en souffrir à un moment donné de la vie. Et c'est une affection qui n'est pas une allergie, qui est un eczéma qui est entre autres très fortement lié au stress et à la fatigue, voire éventuellement au climat froid et sec qui s'améliore toujours en période de vacances dans des climats ensoleillés. Les personnes qui présentent ce type d'eczéma séborique du cuir chevelu sont plus sensibles. Par conséquent, en cas d'application sur le cuir chevelu de produits chimiques, de teintures capillaires, c'est possible que ces personnes éprouvent une sensation de picotement désagréable qu'on qualifierait d'eczéma irritatif qui n'est pas une allergie, qui est une réaction différente, qui apparaît beaucoup plus tôt qu'une allergie et qui se manifeste plus par des picotements ou des sensations de brûlure que par un véritable eczéma. Alors, l'allergie à la paraphénylène diamine se manifeste après la teinture par des démangeaisons, des rougeurs, un gonflement de la peau, l'apparition de toutes petites cloques avec des sérosités qui s'écoulent, qui peuvent faire des croûtes. Et cette allergie peut non seulement atteindre le cuir chevelu, mais encore s'étendre sur la nuque et sur les oreilles, éventuellement sur le front et sur les paupières également.
Là, Johanna Comanges, on a parlé d'allergie, on a parlé de quelque chose d'un peu moindre, les sensibilisations, on a parlé aussi de quelque chose d'encore moins important, les irritations qui peuvent survenir après l'utilisation de ces teintures. C'est peut-être pas facile non plus d'y voir clair pour les utilisateurs de ces types de produits. Finalement, je veux dire, à quel moment est-ce qu'il faudrait cesser de se teindre les cheveux?
Alors la réponse, elle est vraiment difficile, car finalement, une simple irritation peut masquer le processus de sensibilisation, celui qui conduit donc à l'allergie. Alors on retourne dans le cabinet du docteur Tsourne pour tout d'abord soigner les symptômes.
En général, la prescription médicale comprend une lotion avec un produit anti-inflammatoire comme la cortisone, qui est l'anti-inflammatoire le plus prescrit dans le monde entier pour l'eczéma. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques jours, l'application de la lotion permet la disparition des symptômes jusqu'au prochain shampoing, parce que le fait de mouiller les cheveux va provoquer une solubilisation de la teinture capillaire présente sur les cheveux, qui va par conséquent rediffuser sur la peau, rediffuser sur la nuque et les oreilles éventuellement, et reprovoquer l'apparition d'un eczéma, parce que l'eczéma est une réaction immunologique dans laquelle le corps garde en mémoire le produit qui a été reconnu comme devant être entre guillemets attaqué par le phénomène allergique. Donc à chaque réexposition au produit allergisant, on va redévelopper des symptômes éventuellement plus forts. Et c'est ce qui se passe quand on lave les cheveux. Par conséquent, les patientes qui ont une allergie à une teinture capillaire doivent, si possible, se laver les cheveux la tête en bas dans le lavabo pour éviter l'écoulement de savon et d'eau chargée en substances allergisantes sur les oreilles et la nuque, qui sont des zones un peu moins grasse, un peu moins séborique que la peau elle-même du cuir chevelu, qui peut réagir un peu moins.
Et évidemment, pour ces personnes-là, terminer les teintures permanentes capillaires.
Effectivement, à ce moment-là, il faut avoir recours à d'autres procédés, mais les teintures qui ne contiennent pas la paraphénylendiamine ne tiennent pas. Il y a des alternatives végétales, mais les couleurs sont peut-être pas les couleurs souhaitées et leur tenue est aussi beaucoup moins bonne. Donc à ce moment-là, il faut s'abstenir et accepter le blanchiment des cheveux.
Et puis pour donc la majorité des personnes qui finalement ont une petite réaction de la gratouille pendant plusieurs jours et le cuir chevelu un petit peu rouge, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes qui ne sont donc pas au stade de l'allergie? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour mieux supporter ces teintures capillaires?
C'est difficile de trancher sans voir vraiment chaque personne entre une réaction d'irritation et une allergie, parce que souvent, il est possible que l'allergie à la paraphénylendiamine se manifeste par des symptômes qui sont un peu bâtards, voire un peu évocateurs, avec seulement quelques rougeurs et seulement quelques desquamations. Donc, le mieux, c'est en cas de doute, de consulter un médecin et éventuellement de faire des tests d'allergie sur la peau pour déterminer exactement ce qu'il en est.
Pour l'instant, nous nous sommes arrêtés uniquement à la sensibilisation, aux allergies, aux petits picotements, etc. Mais il semble qu'il y ait aussi évoqué sur Internet notamment une polémique qui tourne autour d'un problème sanitaire qui est beaucoup plus grave. Ça serait que ces teintures peuvent avoir une influence sur un risque potentiel de cancer. Ça, d'après ce que vous avez pu savoir, Johanna Comanges, c'est quoi? C'est de la légende urbaine ou il y a un fond de vérité là-dessus?
Non, alors pas du tout. Hein. Dans deux avis, l'un du 12 juin 2001 pour être précise et l'autre du 17 décembre 2002, le CSPC, le comité scientifique donc des produits de consommation de l'Union européenne, a fait état d'un risque potentiel de cancer de la vessie lié à une utilisation régulière et à long terme de teintures capillaires par les femmes. Plusieurs études ont ensuite été menées sur le sujet et ont conduit à l'hypothèse selon laquelle l'apparition de différents cancers et de lymphomes chez des utilisateurs ou des personnes ayant travaillé dans la coiffure serait associée à l'emploi de certaines substances présentes dans les teintures. Mais alors, en 2005, reprenant l'ensemble de ces résultats obtenus sur le sujet, d'autres études ont conclu qu'il n'y avait pas de preuves significatives d'une augmentation des risques de cancer parmi donc les utilisateurs de coloration capillaire et les auteurs donc de ces études.
Oui, alors deux études que nous avons mis en lien, enfin leurs références, les résumés sur notre site internet, hein, onenparle.rsr.ch.
Voilà, alors les auteurs de ces études, ils soulignent qu'ils ont analysé les résultats obtenus après 1980, date à partir de laquelle l'industrie cosmétique aurait éliminé des teintures capillaires les ingrédients les plus fortement
fortement cancérigènes comme le diaminotoluène et le diaminoanisole, je l'ai bien dit.
Bien fait,
et pour finir en beauté, sans se faire des cheveux blancs, sachez que vous avez sur la tête, enfin pas vous, mais moi par exemple, une moyenne de 120 000 cheveux, des cheveux que vous pouvez teindre avec des produits naturels. Une nature qui ne cachera pas votre vraie nature, mais qui la couvrira en transparence. Mais attention, en cas de pluie diluvienne ou à la piscine, vous pourriez tout de même laisser quelques traces.
Johanna Comanche, vous pourrez toujours vous moquer de mon crâne lisse. Faites ce que vous voulez. Moi, je passe pas 40 minutes dans ma salle de bain le matin pour les coiffer, déjà. Et puis, j'ai pas obligation de les teindre. Ce que vous devriez commencer à faire...
Oh, faut... c'est méchant.
Faut y réfléchir. Vous les avez tirés en arrière ce matin.
Moi qui voulais vous dire que vous étiez aussi beau que Yul Brynner, je retire.
Ouais, et bah tant pis pour vous, c'est comme ça. Non, ça fait juste à peu près 20 minutes que vous m'en mettez plein la figure. Il y avait quand même moyen que moi aussi je réagisse. Merci beaucoup en tout cas pour ce dossier.
Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.